Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie d'André-Jean Rouleau et de Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour, chers collègues.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, première émission depuis la Saint-Valentin, on a décidé de vous présenter aux grands dames d'André-Jean un spécial Saint-Valentin, Mélina.
Ben, j'ai pris ça comme un défi simplement.
Défi
on va dire ça, oui.
Pour
ah,
André-Jean.
Oui, ben, on veut rester dans la thématique de ce qui se passe dans les fêtes.
Oui, exactement, ben oui, non, c'est tout à fait correct. Voilà. C'est juste que je ne suis pas en tout cas, les gens apprendront à me connaître de ce côté-là.
Ben, voilà, tout ça. À fait.
Qu'est-ce que l'amour?
Donc, André-Jean, le grand romantique. Nous verrons donc, nous vous proposerons donc dans la deuxième demi-heure, chacun une proposition de film à écouter pendant la Saint-Valentin ou dans la période l'entourant, ce qui est un peu tard. Et sinon, durant cette émission, on va critiquer pour vous le film Edmond, le film Poursuite de sang-froid et Une colonie. Donc, tout ça dans quelques minutes et un peu plus tard. Mais en attendant, quelques nouvelles. Mélina, pour commencer.
Oui, en fait, moi, j'ai envie de vous parler de notre chère Céline Dion nationale. Donc, pour les amateurs, hein, on a appris qu'il y aurait
un film... On dirait que tu as volé la nouvelle, André-Jean.
Moi, totalement. Écoute, ça me vole. ça me prend.
C'est vrai?
Ben, c'est Céline. Écoute, Céline, pour moi, c'est... Non, je vais arrêter là.
Non, mais ça serait la première fois qu'on arrive avec la même nouvelle.
Non, ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas.
Je te rassure.
Donc, c'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe avec Céline Dion? On a appris cette semaine qu'il y aurait un film sur sa vie. Donc, ça va être... C'est un film français, en fait. Et on dit que ce sera plutôt un hommage fictif qu'une biopic. Donc là, pour les technicalités, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, on sent que ça peut-être sera bien, peut-être que non, hein? On a hâte de voir. Et le film sera réalisé par Valérie Lemercier, qui va également jouer le rôle de Céline Dion. On l'attend pour 2020. Et pour l'instant, le titre du film serait le The Power of Love. Donc, on pourrait traduire par Le pouvoir de l'amour.
Oui, qui est aussi une de ses chansons connues.
Oui, on dit en fait que Madame Lemercier s'est beaucoup intéressée suite au décès de René Angélil à la vie de Céline Dion, à son histoire d'amour avec lui et tout ça. Donc, de décider de réaliser un film du côté de Céline Dion, on a autorisé. Donc, voilà,
bon,
à suivre.
Est-ce qu'Al Pacino jouera René Angélil? C'est la question qu'on se pose tous.
C'est la question, c'est ça qu'on se dit.
On a le temps de se préparer. On parle de 2020. Hein? Et puis, ça reste dans le thème de l'amour. Tu restes... tes
ben
concepts,
voilà.
Mélina,
voilà.
Est très concept cette semaine.
J'aime ça, l'amour. J'aime ça.
Merveilleux. André-Jean.
Oui, écoutez, moi, j'ai le goût de vous parler des Berlinales. On s'entend, on en est à la 69e édition cette année. Berlinale, qui est un festival de Berlin, bien sûr, qui a proposé dans les années précédentes ou dans ses versions précédentes à plusieurs reprises des œuvres québécoises, autant dans les cours que dans les longs. Je vous dirais que cette année, la 60e, nous envoie une joyeuse brochette de productions québécoises, en fait, plus particulièrement 6 productions québécoises. Certains producteurs seront là, certains réalisateurs même. Je vous détaille un peu la chose, on vous a parlé récemment, ou en tout cas pour nos fans les plus assidus, vous nous auriez peut-être entendu il y a 3 ou 4 semaines, je crois, parler d'un film qui s'appelle Le répertoire des villes disparues.
Oui.
Voilà. Donc, c'est sorti hier. Normalement, vous devriez pouvoir avoir du plaisir avec ça à la Maison du cinéma, bien sûr. Et le film dont Mélina, si je me rappelle bien, vous parle aujourd'hui, Une colonie, sera aussi des Berlinales en long métrage.
Oui, en fait, finalement, c'est moi qui en parle. On a interverti, là.
Écoutez, je suis complètement... ce matin, je suis... Non, mais c'est bon, il faut maintenir l'instabilité
le suspense,
et vous le faites très bien avec moi.
Non, mais c'est ce qu'on avait dit qu'on ferait. En fait, Jim et moi, on vous expliquera plus tard pourquoi nous avons décidé d'échanger nos
voilà,
films avec
c'est bien.
Parce
oui, parce que le co-animateur, lui, hein, c'est pas... Non, mais le public,
non, vous avez raison. On veut garder les surprises
oui.
aussi.
Ah,
c'est ça.
Ben, vous m'avez eu totalement. Écoutez, je reviens sur les Berlinales. Oui. Les courts-métrages, il y a 4 courts-métrages qui en font partie, soit « Juste moi et toi », Au corbeau, Les Petites Vagues et The Spirit Keepers of Makuta Ai, ou Makuta Oe, Là, il y a une prononciation qui est un petit peu particulière. Ce que la SODEC m'a appris bien sûr, j'ai eu un appel de la SODEC cette semaine à ce sujet. C'est que certains... une scénariste qu'on appelle... Ça, c'est tous des Québécois, des talents québécois. Hein. Donc, Chloé 5 mars, la scénariste. Guillaume Collin, le producteur de Arpent Film. Et Tyler Fitzmaurice, concepteur sonore, participeront eux aussi au Berlinale Talent afin de réseauter avec d'autres professionnels du cinéma international. Alors que ce monsieur Pascal Plante, que certains connaîtront pour son film Les Faux Tatouages, lui fera partie du jury de la section Génération 14+. Donc, première grande manifestation cinématographique de l'année, la 69e édition des Berlinales se déroule depuis le début de la semaine et ça se termine ce dimanche, le 17 février.
Bon.
Donc, avis à tous. Vous pouvez aller voir, bien sûr, sur leur site Berlinale 2019 et vous allez voir, il y a un paquet de trucs intéressants, même s'il vous reste à peine une journée. Donc, enchaîner, public en délire.
Alors, merci beaucoup, André-Jean. De mon côté, en fait, en cherchant des nouvelles du réalisateur Claude Lelouch, donc le réalisateur français qui avait fait notamment Un homme et une femme, et qui est en train de travailler sur... il est censé avoir terminé même la suite de ce film. Je suis tombé sur un article publié la semaine dernière dans lequel le réalisateur parle de comment il aime regarder ses films. Un peu comme Xavier Dolan l'avait dit en entrevue il y a quelques années, le cinéma est une activité sociale. Claude Lelouch, même s'il tourne maintenant les films avec un iPhone, il dit qu'il aime regarder ses films sur grand écran seulement et avec Verbe, il dit, et je cite, « Quand on est seul à regarder un film à la maison, c'est comme une petite branlette. C'est pas pareil que lorsque vous avez la plus jolie femme du monde dans votre lit. » Donc, il a dit ça. Et il dit avoir adoré le film Roma, que Milena a critiqué il y a quelques semaines et que j'ai personnellement trouvé à dormir debout. Il dit « J'ai beaucoup aimé Roma. Je ne l'ai pas aimé sur mon ordinateur. Je l'ai adoré en salle. Je ne comprends pas pourquoi. Il est sorti sur Netflix. Je crois qu'il a commis une erreur en parlant évidemment du réalisateur. » j'ai comme l'impression qu'on verra pas la suite d'Un homme et une femme sur Netflix. C'est juste une impression. Mais cela dit, j'ai toujours pas pu savoir ce qui arrivait avec ce film-là. À suivre, donc, probablement dans les prochaines semaines. Et... avant de débuter, j'aimerais souligner une triste nouvelle. On a perdu notre auditeur le plus fidèle. Mon père Gilbert Boulay est décédé cette semaine et qui a suivi notre émission religieusement, mais qui écoutait même religieusement toutes les émissions auxquelles j'ai participé depuis que j'ai commencé à animer à CFLX en 2006. Alors, je veux juste dire merci à Gilbert pour pour tout ce qu'il a donné et pour tout ce qu'il a fait pour nous à la radio et moi personnellement. Donc, je vous dis bon ciné-brunch. Mélina, tu as vu un film français, le film Edmond.
Exactement, donc le film réalisé par Alexis Michalik, donc qui est un metteur en scène, auteur, également acteur, réalisateur et scénariste. Donc, il y a beaucoup de chapeaux, en fait, Monsieur Michalik. Et donc, il a créé la pièce de théâtre en premier lieu en 2016, donc la pièce de théâtre Edmond. Et suite au succès de la pièce, il a réalisé le film que j'ai vu pour vous cette semaine. Donc, on a Thomas Olivérès qui joue Edmond Rostand, Olivier Gourmet qui joue Constant Coquelin, Lucie Bougena qui joue Jeanne Dalcy, Tom Leb qui joue Léonidas, Mathilde Seigné qui joue Maria Legault et Alice de Lanquesing qui joue Rosemonde Gérard. Donc, un peu rapidement, le synopsis du film, ça se déroule en décembre 1897 à Paris et Edmond Rostand n'a pas encore 30 ans, mais déjà 2 enfants et beaucoup d'angoisse. Il n'a rien écrit depuis 2 ans. Et en désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque en vers pour les fêtes. Seul souci, elle n'est pas encore écrite. Faisant des caprices des actrices, des exigences des producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre « Cyrano de Bergerac ». Donc, si vous comprenez bien, c'est un film qui parle de l'auteur de la pièce « Cyrano de Bergerac », une pièce que je pense que tout le monde connaît.
Un
film, on se souvient... peut-être les plus jeunes... moi, je me souviens de celle avec Gérard Depardieu. Oui. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est un peu comment il a créé cette pièce-là de façon très rapide. C'est extrêmement drôle, un beau film français. Donc, on va l'écouter, la bande-annonce.
Monsieur Coquelin!
Quoi encore?
Alors, votre pièce, comédie, tragédie?
Tragédie. Comédie. Un poète avec un grand nez.
Cette pièce sera très bien. Il faut juste l'écrire.
Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre.
Comme à chaque fois.
Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie.
Comme à chaque fois.
Dites-moi que tout va bien se passer.
Tout va bien se passer.
Embrassez-moi.
Lequel?
Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme.
L'amour.
L'amour. Ça, je n'ai jamais vu.
Ça promet, ça.
C'était très bon.
Oui. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, le film sur Edmond Rostand, c'est très drôle. On retrouve vraiment ce qui est typique de la comédie française. Ça a de l'esprit, c'est drôle. En même temps, c'est intéressant de voir ce personnage-là parce qu'on connaît beaucoup la pièce. On connaît peut-être un peu moins la personne qui est derrière la pièce et aussi l'histoire de comment cette pièce a été écrite de façon si rapide et aussi...
C'est réel, là. Historiquement, ça respecte la réalité, c'est-à-dire ça a été écrit comme ça sur un paix, hein, parce que ça a pas l'air d'être... ça donne l'impression que c'est un petit peu, tu sais, la bande sonore commence en disant c'est une tragédie. Non, c'est une comédie, en fait.
Ah, mais c'est parce que... si tu me permets de répondre, Mélina, oui. c'est qu'en fait, je crois que c'est une époque... C'est un moment dans l'époque où la comédie a vraiment la cote et où les drames, ça passe plus ou moins bien. Okay, et, et à ce moment-là, ben, le producteur, si on veut, le regarde et dit « Qu'est-ce que c'est? »
Oui, c'est ça.
Et là, il répond « Un drame. » Puis là, il voit le regard de l'autre qui est pas convaincu. Et là, il change d'idée. Il dit une comédie. C'est difficile à l'audio de le comprendre, mais quand on regarde la bande-annonce ou le film, ben, là, on le voit. C'est pour ça, simplement. Là. Donc oui, vraiment...
Mais je savais pas que c'est
après,
ça.
Le niveau d'improvisation, je sais pas jusqu'où c'est tiré de faits réels. Là. Okay, peut-être Mélina en sait plus que moi.
Il faudrait aller sur le site comme la semaine dernière qu'on est allé voir là, sur les
faits réels.
Les faits réels.
Effectivement, je sais pas si ça marche pour les films non américains, mais en tout cas, pour dire que ce soit 100% vrai ou pas, c'était très bon.
Mm-hmm. C'était vraiment très bon. Et écoutez, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce film-là. C'est un bon divertissement, c'est léger. Ça fait du bien à voir dans des moments plus difficiles. Je pense que toute la salle a beaucoup apprécié le film. C'est très drôle. Ça m'a donné envie de voir la pièce de théâtre sur Edmond, sur la personne qui a créé le film. De revoir aussi, j'aime bien rester à la fin du film, rester pour voir le générique, parce qu'à un moment donné, dans le générique, on commence à nous montrer... plusieurs versions de Cyrano interprétées par différents acteurs.
Depuis le début du siècle. Il y a plusieurs versions.
Donc, tout ça rend ça très intéressant. C'est très drôle. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur le film. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup ri. Bon, c'est sûr que des fois, c'est un peu exagéré, mais on s'attend à rien de moins que ça pour un film comme ça. Et ça le rend très bien. Donc,
comédie française, vas-y, excuse-moi.
Oui, non, mais beaucoup de petites subtilités dans ce film-là que j'ai remarqué. Je sais pas si Mélina, tu l'as remarqué, mais il y a vraiment des références intéressantes. Il y a un moment donné où Edmond Rostand entre dans un bordel pour une raison qui est un peu hors de son contrôle. Et dans le bordel, il se trouve à attendre et il s'assoit et devant lui, il y a un Russe et il s'agit de Tchekhov. Mais c'est drôle. Puis là, il raconte. Et tout ça, il est sur un ton très léger. Tu vois, il dit « Ah, j'ai la tuberculose. » Il parle comme ça. Mais vous savez, le Tchekhov a une importance en dramaturgie et au cinéma parce que le fameux fusil de Tchekhov, le fameux fusil de Tchekhov, c'est le concept que quand on montre quelque chose, plus précisément dans l'exemple du fusil, quand on voit un fusil au premier acte, ça dit que le fusil doit servir. Donc, au deuxième ou au troisième acte, il faut qu'à quelque part, quelqu'un tire un coup de feu ou qu'il arrive quelque chose avec le fusil. Sinon, il n'y a aucune raison de le voir là. Il ne devrait pas être là. Mais dans ce film-là, on voit en apparence pas de raison pour que Anton Tchekhov soit présent. Mais en fait, il y en a une raison. Et les gens qui sont observateurs s'en seront rendus compte. Il s'agit de la fameuse trappe qu'on annonce dès le début du premier acte. Il y a une trappe. On dit, attention, la trappe, quelqu'un pourrait se blesser, la trappe n'est pas solide, il ne faut pas marcher dessus. Et là, après ça, je ne vous dirai pas comment ça se produit, mais il va se passer quelque chose avec la fameuse trappe. Et, okay. Et dans le fond, le paiement de ça, c'est la trappe, mais l'annonce...
C'est Chekhov.
C'est Chekhov. Mmh. Donc, des petites subtilités comme ça, je pense que les gens qui s'intéressent au théâtre, à la dramaturgie, vont beaucoup apprécier ce film-là. Il y a beaucoup, beaucoup de subtilités. Je l'ai vu avec Mina, j'ai trouvé ça super bon. Puis vraiment, beaucoup, beaucoup de petits détails, de petites subtilités. C'est vraiment très drôle, c'est amusant. Okay. Si vous voulez mon avis, c'est meilleur même que le film de Cyrano de Bergerac.
Mmh. Oh boy.
Donc, moi, je vous dirais... Puis pourtant, presque tout y est. Donc, presque toute l'histoire y est, mais d'un point de vue du créateur. Donc, c'est assez fort intéressant. Mm-hmm. Après, bon, il y a des petites affaires que je ne suis pas certain, comme le monsieur noir que le... Bon, ça, d'après moi, c'est encore une façon de bien paraître. Je ne suis pas convaincu que c'est exact au niveau historique. Mais sinon, ça dit, ça rend ça tout à fait sympathique. Mm-hmm. Okay. Et voilà. Donc, un film fort intéressant.
Mais donc, intéressant, ta cote...
Moi, j'y donnerais un 9 sur 10.
Puis Jim, parce que j'ai l'impression que vous avez un petit peu...
Honnêtement, je pense que j'irais aussi avec un 9 sur 10.
9 sur 10, okay.
Bon film. Très bon film. Très léger, divertissant, mais en même temps... plein de contenu et de sensations et d'émotions et de...
Oui, et c'est intéressant aussi de voir, ben, en fait, ça sera à vérifier qu'est-ce qui est réel dans tout ça ou pas, mais comment sa vraie vie, sa vie personnelle a influencé la pièce. Il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans la pièce qu'on se rend compte qui, dans le fond, sont des choses qui se sont passées dans sa vraie vie. Donc, c'est intéressant à vérifier quand même. Mais, oui,
évidemment. Très théâtral parce qu'on reste dans ce thème-là.
Ça, c'est sûr.
Oui, oui. Alors, oui, très bon film, Edmond. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
André-Jean, tu es allé voir un film d'action qui se passe dans le Nord.
Oui, effectivement. Écoutez, c'est la version française de... Cold Pursuit, ou en fait Poursuite de sang-froid, paru donc en 2019. En fait, c'est depuis le 8 février à la Maison du cinéma. Il s'agit d'un film de type thriller-drame ou thriller-suspense dramatique, si je peux me permettre la transcription, d'un réalisateur méconnu. En fait, je ne sais pas, vous allez peut-être me surprendre, Hans Petter Moland, le Norvégien, en fait. Donc,
moi, non, ça ne me dit absolument rien, mais bon.
Ben, écoutez, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un drame... En fait, on le connaît pour, entre autres, il a fait 3 ou 4 productions. C'est pour ça que je dis qu'il est fort probablement méconnu. C'est un drame d'abord norvégien qui a paru en 2000. On l'appelle Aberdeen.
Ah, ça me dit quelque chose.
C'est ça, à cause de... je me suis dit...
Je m'intéresse au cinéma nordique, mais là, je t'avoue que le nom du réalisateur ne me dit rien, mais le film me dit quelque chose.
Mais Aberdeen, paru en 2000. Et plus récemment, parce que je sais qu'il a fait un autre film en 2004 que je n'ai pas regardé, mais une comédie norvégienne aussi qui a été traduite en anglais. C'est Somewhat Gentlemen's en 2018. C'est ça. On le connaît plus ou moins. La majorité des films du monsieur, c'est des drames ou intrigues. C'est pas un gars... En fait, c'est le style suspense dramatique, c'est pas dans sa... Normalement, c'est pas dans sa brochette, on va se le dire. Et il n'y a pas non plus un pedigree d'une filmographie là, complètement éclatée de 14 000 productions, finalement, dans lesquelles ce n'est qu'un producteur. Disons que je suis allé voir un petit peu sa bio, puis il est surtout connu pour sa relation avec l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui joue dans Somewhat a Gentleman. A Somewhat Gentleman, plutôt, qui est un Norvégien lui aussi. Connu un peu à l'international, mais c'est un peu plat, j'en parlerai pas plus parce que j'ai omis le nom du monsieur. Chose certaine, on revient à Poursuite de sang-froid. Brochette d'acteurs impressionnante, bien sûr. On pourrait penser, je vais vous le dire, en fait, là, il y a Amy Rossum, l'Américaine, l'Irlandais sur lequel on croit que tout le film tient, qu'on appelle Liam Neeson. Oui.
Ah, ça tient pas sur lui, finalement.
Je vais vous donner des détails là-dessus. Laura Dern, l'Américaine, Tom Bateman, l'Anglais, l'Américaine Julia Jones et l'Américain William Forsythe. Donc, je vous invite tout de suite à écouter la bande-annonce.
Je suis très honoré d'être désigné citoyenne de l'année par la ville de Kyo. Je suis un type ordinaire qui ne fait rien de plus que maintenir une voie ouverte vers la civilisation.
Monsieur Coxman ?
Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Qu'est-ce que tu fais ?
Mon travail.
Nels Coxman, citoyen de l'année. Tant mieux pour lui.
quel drôle de fin.
Non, c'est, ben, en fait, j'ai eu de la difficulté avec la bande-annonce aussi à prendre les bonnes... en fait, c'est ça. C'est difficile de dévoiler le film ou de pas trop le dévoiler.
Ouais.
Je vous envoie le synopsis un peu. Donc, la vie tranquille de Nels Coxman, en tant que conducteur de chasse-neige s'effondre lorsque son fils bien-aimé meurt dans des circonstances mystérieuses. Hein. On est dans la chaîne de montagne au Colorado, station de ski. Donc, sa recherche de la vérité devient rapidement une quête de vengeance contre un baron de la drogue psychotique appelé Viking et ses minables hommes de main, bien sûr. Coxman déclenche involontairement donc une chaîne d'événements qui comprend un enlèvement, une série de malentendus mortels et une guerre de territoire entre Viking et un patron rival. Écoutez, je savais pas à quoi m'attendre trop là, comme film. Je sais qu'on avait une discussion là-dessus.
Ben oui.
Puis le marketing est beaucoup fait autour de la présence
de
Liam Neeson, effectivement.
J'avais l'impression que c'était la suite de son film dans un train puis de son film dans un avion.
Non, c'est ça. C'est pas en fait, à mon point de vue, ce que j'ai vu m'a beaucoup surpris, ok, mais c'est une histoire qui est surprenante mais crédible en fait. La transition entre la situation initiale et l'intrigue s'enchaîne d'une manière assez logique quand même. La photographie est de toute beauté. On met en valeur les montagnes du Colorado. Les plans de caméra servent très bien aussi, autant la montée de la tension que la profonde tristesse vécue par le héros, notre détracteur, là, incarné M. Nels Coxman, incarné par Liam Neeson, finalement.
Oui.
Une trame sonore légère, mais totalement suffisante. Le jeu des acteurs est très bien. Même, ça aurait pu être possible de caricaturer les personnages, justement, parce qu'on est dans une situation un petit peu de... Ben, on parle de baron de la drogue et d'une espèce de petit monsieur qui ouvre les chemins l'hiver, en fait, tu sais.
Donc, mais oui, c'est ça. Ça a l'air un peu bizarre, là.
On y croit, honnêtement. Ouais. Liam Neeson, dans ce film-là, ne s'est pas perdu dans un simple film d'action inutile ou qu'on pourrait critiquer, là, comme je t'ai déjà entendu le faire, hors d'onde, bien sûr, où tu disais, bon, c'est un petit peu n'importe quoi. Je dirais que je savais pas à quoi m'attendre, autant du réalisateur que de Liam Neeson, mais Liam Neeson ne tient pas tout le film sur ses épaules. Il fait juste donner, et il le fait très bien.
Mais c'est pas un mauvais acteur, hein. J'ai jamais dit que c'était un mauvais acteur, juste pour être certain.
Non, tu disais pas que c'était un mauvais acteur, c'est juste que tu questionnais des fois son association.
Avec un scénario...
c'est parce qu'on le connaît comme étant capable de justement tellement donner autre chose, que quand on le voit réduit à un film, à un personnage d'action, un peu comme... puis là, c'est pas une critique négative encore là, mais comment s'appelle-t-il? Bruce Willis?
Oui.
Tu sais, avec Die Hard et autres. Tu sais, on s'attend pas à ça de Liam Neeson. Et là, effectivement, ce n'est pas simplement un film comme ça. C'est-à-dire que la justification de l'escalade dans laquelle son personnage se retrouve, l'isolement qu'il a vécu, parce qu'il reçoit effectivement dans le film, là, je peux le dire, ça vend pas un punch vraiment, mais il reçoit le prix du citoyen de l'année.
Oui.
Et entre autres, comme commentaire, il dit, vous savez, quand on passe tous nos jours, toutes nos journées à repasser sur les mêmes chemins, on peut finir par s'interroger sur les chemins, le chemin qu'on a pris dans la vie, tu sais, puis surtout les chemins qu'on n'a pas pris dans la vie. Puis il se dit très heureux de ne pas avoir, de très rapidement, en fait, dans sa vie, avoir choisi des chemins, le bon chemin. Là, on parle bien sûr de... Il y a une référence morale à la chose, parce que rapidement, le bordel de pègre qui effectivement, ça devient... Mais donc, puis pour quelle raison? C'est-à-dire, c'est pas si inaccessible que ça, que cet homme-là, qui est un homme qui paraît pas particulièrement doux, mais qui est un homme là, masculin, mais qui ouvre les chemins, qui a rien d'un tueur, en fait... qu'il devienne ce qu'il devient tout au long du film, ça reste totalement accessible dû à ce lien avec son fils qu'il avait, sur lequel on n'a pas beaucoup de détails quand même, mais qui est assez... en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très accessible et pas simplement facile comme sujet ou comme je dis... Ah, oui, on pourrait penser, le monsieur avait besoin de faire de l'argent, mais honnêtement, comme c'est pas lui seulement qui tient ça, il y a un paquet d'autres acteurs ou d'actrices aussi qui sont quand même, qui se débrouillent très bien dans le processus, c'est-à-dire qui offrent un format, une couleur vraiment familiale même, crédible à tout ça, jusqu'à la fin, puis même son silence à travers tout ça, en tout cas, la solitude du personnage, est très bien transposé autant par lui que par tout le monde autour, parce que bien sûr il y a un frère qui lui aussi donc va l'aider dans le processus, mais à sa façon, alors qu'il n'est plus dans le crime mm-hmm. organisé. En tout cas, je vous en vends pas plus. Okay, mais... honnêtement, le réalisateur qui m'a surpris, parce que sa liste de films me disait on va peut-être pas être capable de donner quelque chose d'intéressant. C'est un bravo total en ce qui me concerne.
Ah oui, t'as aimé ça, bon.
Okay. Ben, je dirais que je suis même pas capable de lui donner un 8.5, j'y donne un 9, parce que c'est pas un film... Je te dirais pas, là, c'est mon film de l'année. Mais pour le moment, là, ça, c'est dans les meilleurs que j'ai vus de l'année.
T'es sérieux,
que...
là?
Regarde.
Ah, c'est
moi, je m'attendais à un navet.
Ben, c'est parce que moi, je m'attendais à ce que ça soit un échec, c'est ça? Avec la discussion que j'avais eue avec toi, j'étais tout à fait d'accord sur le principe que, connaissant Liam Neeson, on sait qu'il peut nous donner bien autre chose. Mais honnêtement, il donne une couleur de crédibilité intense à l'affaire.
Ah, ouais.
Puis on n'a pas que ça, là, du sang qui coule partout, au contraire. Parce qu'autant lui, sa relation avec son fils est mise en parallèle à un moment donné avec le baron de la drogue, là, Viking, qui lui aussi a un fils, en fait. Donc il y a comme en tout cas, il y a une belle réflexion sur l'amour père-fils. Je vous dis pas que c'est pas un film là, philosophique non plus, mais... j'ai trouvé ça vraiment bien et surprenamment bien, en fait, finalement.
Eh bien, 9 sur 10. Hey, c'est le deuxième 9 sur 10 de l'émission. C'est incroyable.
On commence à... Voilà.
C'est incroyable. Merci beaucoup.
Donc, on y va.
Oui, on y va.
On y va.
Poursuite de sang-froid.
Eh bien, écoutons. Mais c'est merveilleux. Merci beaucoup, André-Jean.
C'est un plaisir.
Dans quelques minutes, nous parlerons des films d'amour parce que la Saint-Valentin était à nos portes il y a quelques jours. Et on va vous présenter chacun un de nos films, disons, qui symbolise la Saint-Valentin ou l'amour. Vous voyez ça comme vous voulez, André-Jean a sa propre vision de la chose. On verra ça dans quelques minutes. Mais en attendant, je vais vous parler du film que j'ai vu et que je vais critiquer cette semaine, le film québécois Une colonie. Donc, film québécois écrit et réalisé par Geneviève Duluth-Decelle, qui avait produit quelques documentaires comme L'autre Rio l'an passé. Le film met en vedette la jeune actrice Émilie Brière, qu'on avait vue dans le film très intense Cathy Mini en 2013. Et qui jouera d'ailleurs dans le film Dérive très bientôt sur nos écrans. Aussi dans ce film, une très jeune actrice de 9 ans, Irlande Côté, qui a fait quelques films, mais surtout de la télévision et de la publicité. Et finalement, Jacob White Duck Lavoie et un petit rôle pour Robin Aubert dans le film. On écoute donc la bande-annonce du film Une colonie.
Je vous souhaite la bienvenue au secondaire, en tout cas pour la plupart, parce que moi, ça fait 34 ans que je suis ici. Fait que comptez-vous chanceux de m'avoir pendant que je suis encore là.
Un citoyen, c'est une personne qui vit dans un état.
J'en ai pas de problème, moi, c'est toi qui capote pour rien.
Et qui fait partie d'une société.
Alors voilà, c'était la bande-annonce du film Une colonie, film québécois, on l'aura reconnu aux accents et, disons, au ton de la voix, qui a choqué certains, peut-être, qui sait, nous verrons bien. Donc, ce film traite de la rentrée scolaire de Milia, 12 ans, qui commence sa première année au secondaire. Elle vit à la campagne, près d'une réserve autochtone, et après avoir vécu de l'intimidation et du rejet à l'école primaire, elle arrive dans ce nouveau monde hostile qu'est le secondaire, avec peur et timidité. Elle veut se faire des amis en joignant un groupe de filles populaires et en même temps rencontre un garçon Abenaki, mystérieux et très différent des autres. Bon, je simplifie un peu parce que ce film-là est tout en subtilité. À la maison, ses parents, dont la relation semble tendue, et sa petite sœur, qui est si près d'elle, aimerait passer plus de temps en sa compagnie. Donc, pour commencer, j'aimerais dire que le jeu des acteurs dans ce film-là est fantastique. Au moins pour les personnages principaux, les jeunes en général, il y a quelques acteurs de soutien qui rament un peu du côté réalisme, mais bon, sinon c'est une véritable excursion, voire une incursion dans la découverte de l'école secondaire avec le plus grand réalisme imaginable, tant au niveau des petites choses, de l'anxiété, du langage. Personnellement, je lève mon chapeau à la réalisatrice et aux acteurs pour un jeu d'une grande crédibilité. Bizarrement, il y a juste certains adultes, donc certains acteurs adultes, qui ont fait peut-être un peu trop de téléroman dans ce film-là et qui ont de la misère à jouer vrai. Mais personnellement, je me suis identifié très rapidement au personnage d'Emilia parce que, non, ben pas parce que j'ai les cheveux blonds et des traits féminins, mais parce que sa première journée au secondaire est exactement la même que celle que j'ai vécue jadis. Je me rappelle être entré dans l'autobus scolaire avec un gros stress. Là, tu montes les marches. Et déjà, tu te demandes où tu vas t'asseoir, à côté de qui, tu connais personne, les autres parlent ensemble, ils se connaissent déjà, tu veux avoir l'air low profile, sans trop montrer ta timidité, tu choisis une place, tu regardes par la fenêtre et ton cœur bat très rapidement. Donc, le clash entre la réalité rurale, la nature et la compétitivité artificielle et malaisante du secondaire est magnifiquement exprimé dans ce film-là. C'est sûr que le film est vu par une perspective féminine, bien sûr, mais je pense que même les hommes peuvent s'identifier à cette réalité-là, décrite avec beaucoup de soin et de détails, toujours en restant derrière Emilia et en gardant son point de vue, un peu comme le faisaient les frères Dardenne, qui, en fait, dans plusieurs de leurs films. Donc, le film Une colonie, je le recommande fortement. Je vous recommande d'aller voir ça. Je sais que Milena va vouloir ajouter des choses. On va pouvoir en discuter dans quelques instants. Mais je donne, étrangement, et c'est pas stagé, je donne aussi un 9 sur 10 à ce film-là. Donc, on est à un 3 sur 3 de cinéma. C'est la première fois que ça arrive, je pense, à Cinébrunch.
Oui, hein.
Donc, on a les trois donné 9 sur 10 à notre film, toujours à l'affiche. Des scènes dans le film Une colonie, un peu plus choquante, peut-être pour un public moins averti, mais ô combien réaliste pour ceux qui se sont sentis extraterrestres comme moi à l'époque du secondaire. Je recommande d'aller voir ce film-là à n'importe qui, peut-être pas les enfants ou des gens qui ont le cœur un peu sensible, mais sinon, en général, c'est un film à voir, plein de réalisme. Félicitations à cette réalisatrice. Et j'ai envie d'entendre peut-être... Est-ce que vous avez vu le film Les Deux ou juste
non, moi j'ai... Non, mais j'étais pour vous poser la question. Vous allez pouvoir répondre les deux, en fait. C'est-à-dire, compte tenu que ça s'en va au Berlinade, c'est au Berlinade cette semaine, en fait, est-ce que c'est l'accent québécois qui est assez marqué, comme on a entendu dans la trame sonore?
Ah, ça va penser que ça va des sous-titres, là, c'est certain.
Oui. OK, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire, ça peut rendre le film inaccessible un peu.
Le québécois, déjà... en Europe, nécessite des sous-titres, c'est systématique.
Oui, c'est ça.
Là, je dirais qu'on est, on tombe à un autre niveau parce que là, on est dans un langage très... pas nécessairement rural, mais un langage très familier et très familier de jeunes. Et c'est pas un langage qu'on a l'habitude d'entendre parce que les jeunes à la télévision, dans les séries québécoises notamment, ont tendance à avoir un langage soutenu, un langage, j'ai envie de dire, téléroman, donc qui est un petit peu pompeux pour rien ou juste pour des raisons d'articulation ou de facilité qui perd toute crédibilité à mon avis, mais dans ce cas-ci, on a préservé l'intégrité du dialogue, mais Mina, ça l'a dérangé, je pense. Je me regarde avec un air de...
Puis en même temps, c'est quelque chose, les angoisses... En fait, là, je ne sais pas comment tous les systèmes d'éducation se produisent ou sont aussi. Fait que, si au moins... Ah, c'est ça. En fait, je suis curieux de voir... Toi, tu apprécies.
Moi, je dirais, André Jean, toi qui es un amoureux des cinémas québécois, il faut absolument que tu ailles voir ce film.
Bon, ben c'est parfait, c'est réglé. Parce que avec ton œuf, moi, c'était vendu. Là,
non, mais tu vas... En tout cas, tu vas voir là, où jusqu'où peut aller le réel.
Ben, j'y vais ce soir.
Et c'est là que ça se passe. Alors, merveilleux. Mélina.
Ben, je vais... Parce qu'en fait, je sais que tout le monde attend impatiemment de savoir ce que j'ai à dire
ben
sur
oui,
ce
film. Ben
oui, Lingson, là.
Ben oui, j'étais censée le critiquer, en fait, et je me suis désistée pour la simple raison que ce film-là n'a pas réussi à venir m'atteindre. J'ai pas du tout, contrairement à Jim, réussi à m'identifier au film. Mais il faut dire aussi que j'ai été gravement dérangée par la façon dont les préadolescents de secondaire 1 dans ce film-là s'expriment. Pour moi, Jim semble dire que ça semble que...
Moi, c'était comme ça.
C'était comme ça. Pour moi, j'ai jamais entendu des jeunes parler de cette façon-là. Je viens pas du même milieu, nécessairement. J'ai été plus dans des écoles privées, donc c'est sûr que les gens s'expriment peut-être d'une autre façon. Je sais pas. Moi, ça a beaucoup nuit à mon immersion parce que en sortant du film, j'ai dit à Jim, non, mais ça fonctionne pas. Je veux dire, personne s'exprime comme ça.
C'est une pauvreté de vocabulaire?
Langage en général, c'est familier.
On finit pas nos mots. Oui, mais en même temps, ils se connaissent.
La tonalité de la voix. Là, okay.
C'est comment les préadolescents parlent et s'expriment et disent des choses qui n'ont absolument aucun sens. Ils utilisent des mots qui n'ont absolument aucun sens.
comme dans la réalité, là.
Ben, en fait, c'est peut-être le... C'est... Non, mais c'est bizarre que toi... Pas. C'est bizarre que tu dises ça, mais est-ce que... OK, ben, t'as peu. Vas-y,
mais
continue.
Je sais pas, en fait, parce que... Et là, en fait, je vais dire ce que j'ai dit à Jim ensuite quand on discutait du film. J'ai dit peut-être que si tu me dis que les jeunes parlent comme ça dans les écoles secondaires, le problème, c'est pas le film. Le problème, c'est le système d'éducation québécois.
Okay.
Et je maintiens ce point-là. Okay. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens qu'on est dans un pays où on se croit un peu civilisé. Et là, c'est des façons de parler qui n'ont absolument aucun sens. C'est des anglicismes qui font même pas, qui n'ont même pas rapport, des façons, des choses qui se disent, que voyons donc, comment...
Mina a découvert que la langue n'allait pas très bien au Québec en ce moment.
Non, non, mais on se détend, t'es déjà allé dans une région comme la Beauce ou le Gaspésie, ou etc., ou Saguenay, où t'as un accent marqué qui va apparaître sur certains mots, où des fois, il y a des mots qui ont juste même pas la même signification, tu sais,
oui,
là, puis je
fais
pas...
Mais là, c'était pas dans le régionalisme,
non, c'était pas ça, c'était dans le langage, parce que les parents, ils parlent, la professeure, bon, ça me dérange pas tant que ça, mais il y a une actrice en particulier qui joue le rôle de la fille populaire qui s'exprime. À chaque fois qu'elle s'exprimait, je me disais, voyons donc, ça n'a aucun sens. Son personnage, pour moi, n'avait aucun sens. J'avais de la misère à concevoir qu'en 2019, des jeunes de 13-14 ans se parlent de cette façon-là. C'est même pas juste la façon qu'ils parlent, c'est les choses qu'ils disent, les concepts qu'on aborde. Je veux dire, leur ramener les cours d'éducation à la sexualité, à l'école secondaire, je veux dire, les choses qu'on entend là-dedans... moi, ça me faisait lever les cheveux sur la tête. Là.
Ah, ben ça, on est une autre époque. Hein,
ah, je veux dire, oui,
même, c'est facile d'accuser André Jean. Je trouve ça intéressant parce que c'est facile de m'accuser, moi, d'être d'une autre génération. Mais
ben, j'ai l'impression que je suis d'une autre des générations.
Ben,
pourtant, tu es la plus jeune.
Je te le confirme. Mais non, c'est ça. Il y a des choses qui se vivent au secondaire ou au primaire aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec quelque chose que je pouvais même figurer. Et je suis convaincu que tu n'as pas vécu ça. Ta réaction est assez intense. Mais parce que, bon, on parle de l'arrivée au secondaire. En tout cas, moi, j'ai vu des choses qui étaient autrement inimaginables pour le primaire actuellement qui se vivent. J'ai des amis qui travaillent dans le
moi
système
aussi,
de,
j'ai eu des
services
des...
sociaux.
On m'a raconté des choses
incroyable.
Assez étranges.
Donc,
c'est ça. Ben,
mais voilà.
C'est ce que
bienvenue
j'apprends, en
dans
fait.
Ce...
J'y
donc, moi, je pense qu'on devrait aller faire une petite tournée des écoles à Cinébrunch, faire le tour,
ben oui,
faire des box-pop dans les écoles.
Ramenons les ciné-clubs parce qu'on va les occuper avec autre chose que de ce...
Je veux dire, moi, je l'ai noté dans ces films un manque flagrant de, je sais pas, de bon sens de la part des jeunes. Je sais que les préadolescents, des fois, sont un peu particuliers dans leur façon de penser, dans leur façon de s'exprimer, mais là j'étais complètement découragée. Là. Sérieusement, je pense qu'on a un problème au niveau de l'éducation au Québec. Là. Voyons donc.
Je tente le pouls. T'as-tu une note à lui donner? Parce qu'on sait, la
moi,
note qui a retenu,
c'est
9.
Voilà.
Moi, j'y vais quand même ce soir.
J'ai de la difficulté vraiment à donner une note pour ce film-là parce que j'ai tellement pas réussi à embarquer dans le film, mais je croyais que c'était parce qu'on dressait pas un portrait de la réalité qui me semblait... J'avais l'impression que le portrait qu'on dressait de la réalité était complètement faux. Mais à force de discuter, je me rends compte que on est peut-être en plein dessus et c'est pour ça que je suis choquée.
Mais là, c'est pas un film pour enfants ou pour ados. C'est un film pour adultes.
Ça dépend de la signification que tu y donnes, mais c'est un film pour adultes, mais ça se comporte comme un film d'ado dans le sens où ce qu'on voit,
c'est la vision
des pré-ados, des adolescents. Au même titre que le film Charlotte a du fun était avec des ados un petit peu plus des jeunes adultes, là, on est dans la même logique, mais plus jeune. Okay. Et c'est les rapports, la vision de ces jeunes filles-là qu'on voit, de cette jeune fille-là.
Et j'ai l'impression qu'on a tellement travaillé fort dans les 20 dernières années pour essayer de donner aux jeunes femmes un modèle, d'essayer de les pousser à vouloir plus, d'essayer de leur rendre compte qu'elles ne sont pas simplement que leur corps. Et là, me rendre compte qu'on est là-dedans encore plus, qu'est-ce que je pense? Moi, ça m'a complètement dégoûtée. Ensuite, c'est pas nécessairement le film qui m'a dégoûtée, peut-être plus la réalité que ce film-là essaie de démontrer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben là, va falloir faire une enquête et sonner des cloches à quelque part.
Non, mais c'est cohérent.
Moi, j'aimerais que nos auditeurs qui sont peut-être intervenants ou professeurs ou enseignants ou peu importe,
corroborent,
qui ont vu le film, donnent leur impression. Est-ce que c'est crédible en 2019, ce genre de langage-là? Et répondez-nous sur notre page Facebook Cinébrunch. Donc, voilà.
Oui, tout à fait.
Merci, Mélina, pour cette contre-critique.
Merci, Jim aussi. C'était assez coloré pour donner le goût, en tout cas.
Absolument.
Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours.
Alors voilà, je suis content que le jingle vous plaise. Pourquoi? Parce que cette semaine, on parle de la Saint-Valentin, en fait, un petit peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais, ou vieux motard que jamais. Et donc, Mélina, est-ce que tu veux présider la chose?
Oui, je veux présider la chose. En fait, pourquoi on parlait de ça, en fait? Je pense que chaque personne a un peu son idée d'un film de la Saint-Valentin ou un film d'amour. Et pour ceux qui sont peut-être en rupture, en ce moment, c'est très malheureux. Peut-être que leur film de Saint-Valentin sera Fast and Furious.
Je pense Die Hard ou...
Des gens comme Louis qui pour eux, c'est ça, un film d'amour. Donc, c'est différent pour chaque personne. J'avais donc envie qu'on vous présente chacun un peu. C'était quoi pour nous un film d'amour? Qu'est-ce qu'on aimait là-dedans et lequel était pour nous... celui qu'on avait envie de présenter à vous, chers auditeurs, aujourd'hui. Donc, voilà, André-Jean, je te laisse commencer.
Merci. J'aime bien.
C'est bien.
Écoutez, oui, parce qu'il y a une drôle de rumeur qui court depuis le début de l'émission, comme quoi André-Jean ne connaîtrait pas l'amour, n'aimerait pas l'amour, etc. C'est une totale fausseté. Mon problème, c'est avec les fêtes organisées un peu comme Noël. La Saint-Valentin, pour moi, c'est pour quelle raison j'aurais besoin d'attendre ce jour-là pour dire à ma copine que je l'aime. Vous saurez que je suis un incroyable...
romantique. Homme rose.
Romantique. Le romantisme, c'est toujours relatif à la personne qui reçoit le geste. C'est-à-dire que si elle ne le perçoit pas, elle ne peut pas penser que tu es romantique. Dans ma tête, je me plais à croire que je suis romantique. Faudrait demander à ma copine qu'est-ce qu'elle en pense. Dans les faits, j'aime l'amour, mais c'est quelque chose sur lequel je suis très, très intime. C'est pas quelque chose que j'expose. Donc, d'aller dans un souper steak, justement, pour dire, ben, t'as-tu vu, j'ai fait quelque chose pour toi, chérie, parce qu'il y a des roses sur la table pendant qu'on mange. Ça, c'est quelque chose qui me déplaît. Cela dit, bien sûr, on va commencer.
Mais écoute, un film en amoureux, c'est bon, ça.
Oui, et ça donne souvent, comme on en parlait, là, le regard de l'autre sur nos perceptions. Tu sais, comme j'ai bien aimé ce que vous avez fait, en fait, là, de me fourvoyer en disant que chacun, vous alliez voir le film que l'autre... Moi, je pensais que l'autre allait voir. Ouais. J'ai trouvé ça le fun. Puis, en même temps,
ça s'est décidé hier soir aussi, là.
Mais vos impressions étaient plaisantes. Puis, t'as fait un parallèle avec le réalisateur dont tu parlais en début d'émission, qui avait fait un parallèle avec le fait qu'aller voir un film... Regarde un film à la maison, c'est un peu comme ça.
Oui, oui,
aller
voir Lelouch.
Lelouch, et voilà, excuse-moi, ça m'est sorti de l'idée. Le principe, c'est ça. Je trouve que ça donne une possibilité d'échanger et voir un film ensemble. Absolument. C'est toujours quelque chose de merveilleux. Donc, cela dit, on peut le faire tant qu'à moi, on peut le faire autant à la maison ça qu'en public. Même que je vous suggère de le
on
faire plus à la maison.
On n'échange pas nécessairement la même chose
non,
à la
non,
maison.
Non, pardon. Et voilà, exactement. Voilà. On reste dans le visionnement. Donc, revenons à ma suggestion personnelle. Depuis un petit moment, vous m'entendez parler de cinéma américain, du moins pour certains auditeurs qui nous suivent un peu. Et je suis revenu sur un de ces grands classiques phénoménales qui, selon moi... vient bien toucher quelque chose, c'est-à-dire le film d'amour un peu à l'eau de rose, que tout finit bien puis que tout se passe bien pour moi, c'est un peu vide de sens. Ce que je veux faire, c'est aussi avoir une critique du film, d'accord, mais que ça nous amène dans le couple une réflexion et plus profonde peut-être sur notre relation, etc. Bon, c'est pas obligé de donner ça non plus, mais je vous envoie tout de suite le film qu'on appelle Casablanca.
Ouh!
Donc, un drame romantique américain sorti en 1942. Effectivement, ça date un peu. Peut-être pas mal inaccessible. Je dirais inaccessible aux exégètes, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le visionnement, mais n'importe quel cinéphile moyennement averti pour pouvoir avoir du plaisir à regarder ça, en fait, parce que les thèmes sont assez particuliers. Un film qui a été réalisé par Michael Curtis, d'origine hongroise, un Américain d'origine hongroise, bien sûr, brochette d'acteurs, qui diront peut-être rien à la majorité des gens, parce qu'on quand même, quand on revient en 1940.
C'est un moment quand même. Là.
Oui, mais c'est quand même, si certains peuvent se rappeler, l'époque de l'âge d'or d'Hollywood, c'était là où ça y allait à fond la caisse, malgré le fait que c'était la dépression économique aux États-Unis et la guerre... la totale guerre, en fait. Donc, je reviens avec mes acteurs, l'Américain Humphrey Bogart, la Suédoise Ingrid Bergman, qui ont été associés longtemps à des studios de production parce que c'était des vedettes
toute
incroyables. Super jolie, autant pour Ingrid que pour Humphrey, bien sûr. C'était un bel homme, une belle femme. Paul Ann Reed aussi, l'Américain, qui était tout aussi joli. Claude Rains, qui est un Anglo-Américain, en fait. Conrad Veidt, l'Allemand, bien sûr. Et Sydney Greenstreet, l'anglais, pour terminer bien sûr cette brochette avec Peter Lorre, l'Américain bien sûr. Je vous envoie un petit peu le synopsis, on est en 1941, Rick Blaine, incarné par Humphrey Bogart, propriétaire d'un club huppé à Casablanca, retrouve son ancienne flamme par pur hasard en fait. Ilsa, bien sûr, Ingrid Bergman, est en ville avec son mari, Victor Laszlo, qui est Paul Henreid. En fait, Laszlo est un célèbre rebelle. On est toujours dans le temps, là, comme je le disais, de la guerre. Et avec les Allemands sur les épaules, Ilsa sait que Rick peut les aider à sortir du pays. Donc là, on est au Maroc. Donc ils sont en train de se sauver parce que Laszlo, bien sûr, est un criminel notoire ou en fait, il est connu des Allemands. Et donc, Ilsa avoue son amour toujours présent pour Rick, hein, qui est Humphrey Bogart, mais explique que lorsqu'ils se sont rencontrés à Paris en 1940, elle croyait que son mari était mort en tentant de s'enfuir d'un camp de concentration. Elle explique à Rick sa disparition lorsque, tentant de fuir Paris avec lui, elle avait appris finalement que son mari n'était pas mort, bien sûr. Là, on est en 1940, juste avant que Paris tombe aux Allemands, bien sûr. Se joint du policier qui veut arrêter Laszlo, Rick prouvera son amour inconditionnel à Ilsa en l'aidant, elle et son mari, à fuir, bien sûr. Et là, n'est-ce pas la plus belle preuve d'amour? Bien sûr, il y a une intrigue qui est beaucoup plus élaborée que ça. D'autres personnages qui entrent en ligne de compte, un policier qui, en tout cas, qui se retrouve pris aussi dans cet imbroglio-là. Voilà, je vous le conseille.
Mais merci André-Jean pour d'avoir sorti ce film des boulamites, littéralement.
Oui,
c'est quand même assez lointain.
Oui.
Excellent. Et,
Je vais poursuivre,
oui,
en fait.
Bien sûr.
Je te laisserai y aller à la fin. Le film que j'ai choisi de vous parler, c'est un film qui me touche énormément à chaque fois que je le regarde. C'est pas un traditionnel film romantique dans le sens que c'est un film qui va faire pleurer toutes les personnes qui regardent ce film-là. C'est le film The Notebook, donc le titre québécois Les pages de notre amour, basé sur un roman de Nicholas Sparks, réalisé par Nick Cassavetes. Et les acteurs, c'est Ryan Gosling et Rachel McAdams. Pourquoi on écoute ce film-là à la Saint-Valentin? Parce que ce film-là raconte une histoire d'amour, mais c'est plus que ça, en fait. C'est à quel point, même avec la maladie, avec la vieillesse, les efforts de l'amoureux pour rappeler à sa douce leur histoire d'amour, même lorsqu'elle l'oublie, en fait. C'est pour ça que ça s'intitule « N'oublie jamais », donc qu'ils lui racontent à chaque jour leur histoire d'amour. C'est incroyablement touchant. C'est un film qui se déroule aussi sur une longue période, dans le sens qu'on les voit jeunes et ensuite jusqu'à la vieillesse. Donc, c'est incroyablement touchant. Donc, voilà. Jim?
Oui, ben de mon côté, un peu plus léger que vos deux films, mais quand même pas toujours. Donc, mon film de Saint-Valentin, c'est « Du soleil plein la tête » ou « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », qui a été fait en 2004, un film américain, mais réalisé par un réalisateur français, Michel Gondry. Le film met en vedette Jim Carrey et Kate Winslet. Joël et Clémentine ont vécu une belle histoire d'amour, même s'ils étaient très différents. Joël, réservé, avec une vie très monotone, et Clémentine, fantasque, spontanée et pleine de vie, ont eu un passé commun merveilleux. Pourtant, un jour, Joël ne comprend plus rien. Alors qu'il rejoint Clémentine sur son lieu de travail pour lui offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, thématique, celle-ci semble ne plus le reconnaître et pire, elle a un autre homme dans sa vie. Anéanti, Joël veut absolument comprendre ce qui se passe. Il découvre l'existence de la clinique Lacuna, spécialisée dans l'effacement des souvenirs. C'est une comédie dramatique de science-fiction. La portion science-fiction du film a peut-être même inspiré un peu, ou peut-être pas, la série québécoise Plan B. Ce film-là est magnifique, c'est touchant et beau à la fois, troublant, vraiment troublant. On cherche vraiment, on partage la quête du personnage qui veut récupérer sa douce. Je vous cacherai pas que c'est un peu bizarre d'écouter ça pour la Saint-Valentin, mais je me suis dit que cette année, je laissais faire Meg Ryan et Tom Hanks du film You've Got Mail pour me consacrer à Jim Carrey, que j'adore tout simplement. Et honnêtement, ce film-là a des plans exceptionnels de l'ordre d'un film de science-fiction surréaliste avec des fonds qui changent, des maisons qui se... On joue avec le cerveau d'une personne et ça donne des choses franchement inusitées. Tout ça avec un ton d'une légèreté épeurante, mais en même temps, un symbolisme et une intensité émotive vraiment, vraiment très élevée. Donc, un film que je recommande fortement. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je l'ai vu, ça fait pas si longtemps. Et franchement, c'est un film extraordinaire.
C'est pas innocent, ça. C'est 2010, tu dis?
2004.
Oui, et le film est disponible sur Netflix encore, je pense.
Ah oui? Bon, ben, tant mieux. Donc, Du soleil plein la tête,
En anglais, la traduction, c'est The Spotless Mind.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est une citation, je crois, d'un auteur anglais dont j'ai oublié le nom. Mais oui, donc un film.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est surtout à l'avènement de. C'est quoi J'ai surpris une discussion à la radio des animateurs de je me rappelle plus quel poste en fait, mais c'était un poste compétiteur, bien sûr. Donc, bien sûr, on ne le pourra pas. Mais non, ça m'avait fait réfléchir parce qu'on était à l'époque dans la comment les hommes et les femmes réagissent à cette ère de relations ou de situations relationnelles, beaucoup par le téléphone, les applications, etc. Mmh. Puis là, les gens, chacun des animateurs faisait une espèce de petit tour de table parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question, comment est-ce que vous gardez un bon terme, vous restez en bon terme avec vos ex? Puis là, finalement, on fait face à une situation où finalement, il y a quelqu'un pour qui ça a été trop lourd qui a demandé de se faire effacer cette partie-là de...
Ben, c'est ça.
C'est ça le truc. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais, parce que
c'est
ça
fort intéressant.
Mais non, mais ça t'amène automatiquement. Je parlais de discussion que tu peux avoir à la maison avec ton conjoint ou ta conjointe. Je trouve ça merveilleux parce que comment on est... amené à faire face à la réalité dans une relation et la réalité surtout, tu sais, comme tout à l'heure on le disait un peu plus tôt avec Mélina, la réalité est souvent pas agréable. Est-ce qu'on est tous capables encore aujourd'hui ou est-ce qu'on préfère pas passer à une autre histoire rapidement? Ben là, c'est carrément ça le thème du film. C'est super le fun. Mais,
ouais. Mais ça rentre dans une dimension vraiment très profonde. Je recommande de voir ce film-là grandement.
Okay.
Et voilà, j'ai une mention spéciale quand même pour un autre film, un film de mon réalisateur fétiche, Andrew Niccol, qui a fait un film, ça fait plusieurs années de ça, Simone, avec un 1 au lieu du I et un 0 au lieu du O. Simone, donc un film très particulier, j'en dirai pas plus, mais film à voir si vous voulez.
On est encore dans la science-fiction encore? Ou...
On est dans la science-fiction toujours, évidemment, là, science-fiction un peu rétro, si on veut, donc ça c'est le style d'Andrew Niccol de toute manière.
Okay.
Donc voilà, c'est tout, mais sinon mon film donc avec Jim Carrey à recommander à tout le monde pour la Saint-Valentin qui est déjà passée.
Ben oui, merci et à vous deux quand même, mais il est jamais trop tard.
Ben oui, ben c'est ça, merci à tous pour cette participation à cette émission, merci André-Jean, merci Mélina.
Ça fait plaisir.
Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay et on se retrouve samedi prochain 11h, rediffusion le mardi à la même heure ou sur notre site web cinébrunch.com, sur notre page Facebook Cinébrunch et encore une fois sur votre application balado de votre téléphone intelligent favori. Donc voilà.
Et bonne semaine des amoureux en retard.
Bonne semaine des amoureux en retard.
Bonne semaine.